Merci Madame la Présidente. Donc je vais vous changer un petit peu d'ambiance dans cet exposé. Le titre parle des leçons de l'histoire. Je ne sais pas si on a vraiment des leçons à en tirer, mais des connaissances à en acquérir. Je pense que le smartphone ne suffit pas tout à fait. Il faut quand même avoir la tête bien faite. Et pour avoir la tête bien faite, il faut un minimum de connaissances, simplement pour répondre à M. Montel. Alors, patrimoine et ressources minérales, c'est le sujet de mon intervention. En fait, obéissent ce rassemblement de ces deux idées, patrimoine et ressources minérales, obéissent à une sorte de logique duale. La première logique, c'est que dans l'histoire, on a tantôt vu que l'on pouvait privilégier la qualité des matériaux. Et pour illustrer ce propos, je vais parler de deux sujets, qui est le premier, la provenance de parures néolithiques en varicite, à la recherche d'un long voyage, et le second, la fourniture de pierres pour la construction des cathédrales d'hier à aujourd'hui. La deuxième partie de cette dualité, la deuxième logique qui irrigue l'histoire de la construction patrimoniale, je dirais, c'est l'utilisation de ressources locales dans un souci d'économie. Et pour cela, je vous parlerai des matériaux du verre pour le vitrail et des ciments naturels du 19e siècle à nos jours, en essayant de tenir mon temps, parce que le sujet est vaste. Donc pour la première partie de cette dualité, ce premier membre de la dualité, cette affaire de la provenance des parures en varicite des sites néolithiques de l'ouest de la France. C'est un travail qui a été fait par mes équipes du Centre de recherche et de restauration des musées de France avec l'Université de Rennes et que Georges Callas connaît bien, puisqu'il a contribué à la connaissance de ces varicites, du moins pour la partie couleur de la varicite. Alors, à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de monuments mégalithiques de la région de Carnac ont été fouillés et ont mis au jour de nombreuses sépultures datant du néolithique, 5e au 3e millénaire avant Jésus-Christ. On a trouvé des lames de hache en jadéite, en fibrolite, des éléments de parure en calaïs. Le mot calaïs, c'est un mot qui vient de Pline l'Ancien, qui désigne ces objets en varicite. La varicite, pour mémoire, étant un phosphate d'aluminium. Alors ces objets, ces bijoux, ces haches, posaient un certain nombre de questions d'histoire. La première, c'est quelle est la nature minéralogique de ces objets ? Quels sont les échanges qui ont permis que ces objets soient présents là, en Bretagne ? Échanges de proximité ou à longue distance ? Comment se faisait l'approvisionnement par les néolithiques ? À partir d'une ou de plusieurs sources ? Locales ou lointaines ? Ces approvisionnements ont-ils évolué au cours de l'histoire, au cours de ces trois millénaires ? C'est une longue période historique. Et puis, quelle est la répartition spatiale des sites en fonction des sources disponibles de varicite. Alors, je vous montre ici sur une carte différents gisements de varicite et de turquoise en Europe occidentale. Et vous voyez qu'il y a deux sources principales, un gisement en Bretagne et puis un gisement, plusieurs gisements importants dans la péninsule ibérique. Alors, j'essaie de manier le pavé, les voilà. Et puis, je vous montre maintenant des sites archéologiques préhistoriques présentant des bijoux en varicite. Donc, ces sites sont multiples. Il y en a un très grand nombre dans la péninsule ibérique. Et puis, il y a une concentration importante en Armorique. Et puis, un petit peu aussi dans l'est de la France, du côté de la Marne et du nord de la France. Alors, pour essayer de comprendre et de répondre aux questions que je vous ai présentées dans ma première diapositive, on a eu une double approche. La première, c'est évidemment de caractériser les minéraux présents sur ces gisements. Donc, on a commencé par analyser, par une analyse par faisceau d'ions sur l'accélérateur de particules qui se trouve dans le Centre de recherche et de restauration des musées de France que je dirige, et donc on a fait des analyses par PIX. Et donc avec un faisceau extrait à l'extrémité de l'accélérateur et qui permet de faire cette analyse élémentaire quantitative, très précise, très résolue sur les éléments provenant de ces gisements de varicite. Sur la base de ces analyses élémentaires, on a pu faire une étude chimiométrique. Cette étude chimiométrique a montré qu'on pouvait avoir une signature chimique très, très précise, très claire, très bien différenciée, en se basant sur la proportion de vanadium, de chrome et de fer dans ces minéraux. Et on voit ainsi que le profil chimique du gisement de Java n'a rien à voir avec celui d'Encinazola, de El Bostal, de Palazuelo ou de Pansé. Ensuite, on a analysé les objets, et on a analysé un très grand nombre d'objets, puisque c'est une étude qui a duré une dizaine d'années, et 882 objets ont été analysés de la même manière, avec le même équipement, donc sur l'accélérateur de particules, par analyse PIX. Et on a pu, là aussi, rapprocher les objets des gisements, et on a montré que la tombe à couloir, par exemple, je ne vous donne que deux exemples, hein, je vous résume beaucoup cette histoire, que la tombe à couloir de Kerlagat, les profils de ces objets ressemblaient beaucoup aux matériaux trouvés sur le gisement de Palazuelo en Espagne, enfin, dans la péninsule ibérique, pour être précis. Ou encore, la tombe à couloir de Kervidor, dans le Morbihan, ressemble beaucoup au gisement aux matériaux sortis du gisement d'Encinazola. Alors, la conclusion de cette grande étude, vous voyez toute la liste des sites qui ont été étudiés, eh bien, c'est que tous ces bijoux, donc de l'époque néolithique, hein, donc très, très anciens évidemment, tous ces bijoux en calaïs, eh bien, tous ces bijoux sont en varicite, hein, sont clairement en varicite. Sauf au tumulus Saint-Michel, un cas où nous avons deux perles en turquoise parmi les 138 objets du tumulus Saint-Michel. Donc c'est un peu un épiphénomène. L'ensemble des objets est bien en varicite. Seconde conclusion, qui est plus surprenante que la première, parce qu'on pensait quand même, on allait quand même en direction de la varicite, eh bien, la première conclusion la plus surprenante, c'est qu'aucun objet trouvé sur les 882 objets ne provient du gisement local de Bretagne, d'Armorique, qui est proche des tombes trouvées, et qui est à quelques kilomètres des tombes trouvées, c'est-à-dire à Pansé. Les profils n'ont absolument rien à voir, rien ne vient de là. Et toutes les sources sont des sources ibériques, Encinazola et Palazuelo. Donc on a pu, à partir de ces travaux, faire une évolution, imaginer l'évolution de la provenance de la varicite dans l'ouest, dans ces tombes de l'ouest de la France, au cours du néolithique. Et on voit qu'on a un premier ensemble de moins 5000 à moins 4000 avant Jésus-Christ, où tous les gisements utilisés pour fabriquer ces bijoux, c'est le site d'Encinazola. C'est le gisement d'Encinazola, qui est relativement loin quand même, hein, c'est celui qui est le plus au sud de la péninsule ibérique. Et pourtant, il a alimenté tous ces sites de la Bretagne. Et à partir de 4000, il y a une rupture, petite rupture, certes, mais on a abandonné la mine d'Encinazola pour utiliser le gisement de Palazuelo, et on ne sait pas véritablement pour quelle raison, mais en tout cas, les objets à partir de cette époque-là viennent tous de Palazuelo. Alors, ce changement d'approvisionnement vers 4000 avant Jésus-Christ, à des périodes dans lesquelles on n'a pas de traces historiques, évidemment, pas de traces, pas de sources écrites, eh bien, il faut qu'on fasse un peu marcher notre imagination. Le premier élément, c'est que la mine d'Encinazola n'est pas épuisée du tout. Ce n'est pas un problème de ressources qui n'est plus disponible. La mine est toujours là, elle existe toujours. Le gisement de Palazuelo a sans doute été découvert à cette époque, très certainement découvert à cette époque, et est rentré en concurrence avec celui d'Encinazola. Et peut-être l'a-t-il emporté dans la course à la production et à la vente parce qu'il était un peu plus proche de la péninsule armoricaine. C'est une hypothèse vraisemblable. Et puis, une autre hypothèse qui reste une hypothèse parce qu'on n'a pas les moyens de la vérifier, c'est que les relations entre les populations néolithiques de la péninsule ibérique et de la péninsule armoricaine à ce moment-là évoluent et que peut-être des difficultés d'accès existent au gisement d'Encinazola, plus lointain et peut-être barré pour des raisons politico-commerciales. Alors voilà l'histoire d'un long voyage à une époque extrêmement reculée où les objets de ces personnes qui ont été enterrées dans la péninsule armoricaine eh bien, provenaient d'Espagne par des voyages par mer très certainement. Et ça n'est pas la proximité du gisement qui a fait la production de ces éléments. Alors une des hypothèses aussi, c'est que je n'ai pas mis sur ma diapo, c'est que la profondeur du gisement de Pansé est beaucoup plus importante que ceux d'Espagne et donc l'accès est un peu moins facile. Alors, on va passer à un autre sujet, mais qui a comme objectif de faire la même démonstration. Les pierres de construction pour les monuments, pour les cathédrales, carrières et approvisionnement. Les chantiers des cathédrales, pierres locales ou importations? On dit souvent pierres locales. C'est plus simple, ça coûte moins cher, il n'y a pas de transport. En réalité, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, le choix des pierres de construction dépend au Moyen-Âge. Alors je vous parle essentiellement des 12e jusqu'au 14e, 15e siècle, de l'usage. Est-ce qu'on emploie cette pierre en soubassement ? Il faut une pierre dure. En parement, en modénature, en sculpture. Quel est l'aspect que l'on souhaite ? Quelle couleur ? Est-ce qu'on veut une pierre plutôt chaude, plutôt froide, plutôt blanc ? Est-ce qu'on veut alterner les couleurs ? Ces choses-là arrivent aussi. De quel volume on a besoin ? Si on veut faire une sculpture un peu ample et qu'on a des bancs très petits, on est en difficulté. De la disponibilité des carrières en fonction des époques de construction. Certaines carrières, effectivement, produisent beaucoup et d'autres moins. Des ressources économiques du chantier. Est-ce que l'évêque, le chapitre, a réussi à rassembler suffisamment d'argent en faisant des quêtes dans les villages pour pouvoir se payer une pierre très belle, très fine, très blanche et qui provient de loin ? Quelquefois aussi de la propriété de la carrière. À côté de Chartres, il y a une carrière qui s'appelle aujourd'hui Berchère-les-Pierres et qui, en 1250, s'appelait Berchère-l'évêque parce qu'elle appartenait à l'évêque. Et puis des habitudes du maître d'œuvre, tout simplement. Un bon maître d'œuvre, il sait comment on travaille telle ou telle pierre, et donc il va choisir telle pierre plutôt que telle autre. Alors, tordons le cou à une idée reçue, évidemment, mais je suis sûre que vous ne l'avez pas, parce que vous êtes tous des gens très cultivés, c'est qu'il y a une préoccupation au Moyen-Âge de développement durable et de préservation de la ressource. Évidemment, non. En Bretagne, on exploite du granit dans la région de Bas-sur-Mer, par exemple, directement sur la côte. On érode la côte progressivement et ça n'est que Louis XIV qui dit stop là, on arrête de grignoter la côte de granit. Mais auparavant, évidemment, pas de souci de ce genre. Une autre idée reçue dont j'ai parlé il y a quelques instants, la proximité. Non, la proximité n'est pas la seule raison pour laquelle on s'approvisionne en pierre. Et en particulier, je vous ferai un focus spécifique sur la pierre de Paris qui approvisionne les chantiers de Chartres, Sens et Auxerre au Moyen-Âge sur des distances très importantes qui là sont des distances par route. Hein, c'est du Google Maps, donc c'est une distance par route. Mais je vous montrerai tout à l'heure les distances réelles, c'est-à-dire par voie fluviale. Pardon. Alors, qu'est-ce qui motive la grande diffusion de la pierre de Paris, du calcaire lutétien, dans les chantiers des cathédrales, y compris assez loin de Paris, par exemple Chartres, Sens ou Auxerre ? Eh bien, ça peut être en partie, mais pas seulement, le fait que tout cet ensemble de cathédrales appartient au même archidiocèse. Tous ces diocèses particuliers, Paris, Chartres, Troyes, Auxerre, etc., sont des évêchés, pardon, suffragants de l'archevêque de Sens, c'est-à-dire qu'ils obéissent à l'archevêque de Sens, d'une certaine manière. Donc c'est le même contexte politico-religieux. Alors, petit rappel, désolé pour tous les géologues qui sont dans la salle, mais au cas où il n'y aurait pas de géologue, un petit schéma du calcaire lutétien. C'est un schéma théorique de l'ensemble des bancs. Tous ces bancs peuvent être exploités à telle ou telle époque, mais un banc, j'attire votre attention sur un banc particulier, qui est le banc de Liais, qu'on appelle le banc de Liais, qui est ici, dans le lutétien supérieur, et qui est un banc extrêmement petit en hauteur, et qui pourtant va être très utilisé en sculpture, mais évidemment, il faudra l'utiliser dans des conditions très particulières. Petit rappel également, les conditions d'extraction des pierres au Moyen-Âge, on peut avoir à la fois des carrières à ciel ouvert, bien sûr, mais aussi des carrières souterraines, certaines avec accès direct en plan incliné, mais d'autres avec des accès par puits extrêmement complexes, comme vous le voyez ici, avec un système d'écureuil qui permet de sortir les pierres depuis les niveaux les plus bas de la carrière. Alors, on va parler rapidement maintenant, parce que le temps passe, de Chartres, de Sens et d'Auxerre. Donc, la cathédrale de Chartres, on va voir, au cours de l'histoire de sa construction, des changements de partie d'approvisionnement en pierre. Au XIIe siècle, à la façade occidentale, que vous voyez là, on va utiliser l'ensemble de la construction, c'est-à-dire tous les parements eux-mêmes, vont être construits, fabriqués avec un calcaire lacustre de Beauce, qui est le calcaire local de la carrière de l'évêque, en pierre de Berchère, approvisionnement 8 km. Tout le parement des portails derrière les sculptures, alors là ça se complique un peu, c'est du calcaire lutétien aussi, mais du Mantois, donc de la région de Mantes. Déjà c'est plus loin. Et enfin, toute la sculpture est faite dans ce calcaire fin type Liais de Paris. Et évidemment, vous avez vu la taille du banc de Liais, très, très peu haut. Et évidemment, pour faire des sculptures, même des statues-colonnes assez plates, eh bien, on ne peut pas les faire, si on voulait les faire en gardant la pierre dans son lit, eh bien, ça ressemblerait à un saucisson, à des rondelles de saucisson, et ce serait très inesthétique. Donc évidemment, on prend tout en délit, ce qui va nous entraîner d'ailleurs des problèmes d'altération de la pierre par la suite. Et puis au transept, au XIIIe siècle, on avance dans le temps, au porche du transept, eh bien là, on va avoir une diversification encore plus importante. Les porches sont toujours en pierre de Berchère, les sculptures en calcaire de Paris, toujours le liège parisien, mais une partie des voussures sud va être fait en craie blanche de Normandie. C'est-à-dire qu'on va la faire venir de beaucoup plus loin encore. Alors voilà quand même que vous voyez quelques monuments. La cathédrale de Chartres, le porche sud, avec un relevé lithologique. Tout ce qui est en bleu-gris, c'est du calcaire parisien, du Liet Paris, donc la première assise des voussures. Tout ce qui est pointillé, c'est de la pierre de Berchère. Et puis les petites hachures grises, c'est la craie de Vernon. Et la craie de Vernon va ensuite envahir, si je puis dire, les portails suivants, et elle sera largement utilisée par la suite. À la cathédrale de Sens, au XIIe et XIIIe siècle, il n'y a pas de carrière de pierre de taille. Dans la région, il n'y a rien de disponible. Or, on y constate des fournitures très variées. Au portail central, on fait un large usage du calcaire parisien, même en parement. Il y en a partout, on ne prend que ça. Au bras nord du transept, la base est en craie à silex de Normandie, vous voyez Sens quand même, hein, on est dans le fin fond de la Bourgogne, en calcaire à ditrupa de l'Oise, au nord de Paris. Et on connaît par un texte de 1341 que des achats de pierre sont faits à la carrière d'Ivry par un maître d'œuvre qui s'appelle Jean de Varinfroy. Et dans ce texte, on sait que le transport se fait par bateau et par chariot et que le transport double le prix de la fourniture. Alors vous imaginez le transport et le transport d'éléments très pondéreux puisque le grand Saint-Étienne monolithe de la façade occidentale fait 4,50 m de haut et pèse 6 tonnes. Alors, il faut savoir qu'un bateau, je vous donne une proportion, un bateau de cette époque-là peut transporter 60 tonnes. Mais encore avec difficulté, puisqu'il faut tirer les bateaux. Hein. On descend, On voit le portail ici, le portail occidental du XIIIe siècle, et on voit son relevé lithologique, tout est en calcaire lutétien parisien, de différentes natures. Le gris est très fin, l'autre est un peu plus coquillé, mais tout vient de la région parisienne. Et si on regarde la carte, donc j'ai fait le calcul par la rivière, hein, je me suis amusée à suivre le cours de l'Oise, puis de la Seine, puis de l'Yonne, et bien de Saint-Ludécran, qui a fourni une partie du calcaire et des calcaires à ditrupa jusqu'à Sens, 270 km. Et si je prends la craie de Vernon, jusqu'à Sens, 287 km. Donc c'est évidemment beaucoup pour l'époque, tout ça par bateau, qu'on tire à bras d'homme et avec des animaux, évidemment, mais dans des cours d'eau dont le tirant d'eau est très variable. Il y a des endroits où il y a des formations géologiques dans le fond de la rivière et on a du mal à passer, où il faut attendre que l'eau soit suffisamment, qu'on ait un tirant d'eau suffisant pour passer. Quelquefois, c'est tellement compliqué qu'à Montreux-Fautionne, donc à la jonction entre la Seine et l'Yonne, eh bien, les bateaux sont obligés de décharger pour pouvoir continuer leur trajet jusqu'à Sens. Donc, évidemment, c'est très compliqué, et à la fin du Moyen-Âge, le prix de la construction de la cathédrale de Sens, le prix en fourniture de pierre, est 3 fois plus élevé livré que produit à la carrière. 3 fois et demi même plus élevé une fois livré. Et enfin, la cathédrale d'Auxerre. Eh bien, la cathédrale d'Auxerre, c'est un paradoxe. Alors, plus grand encore que celui de la cathédrale de Sens, puisque à Auxerre, il y a des ressources locales en pierre très variées. Il y a des calcaires jurassiques, supérieurs, portlandiens et pierres de tonnerre, de très beaux calcaires, qui ont ensuite, d'ailleurs, se sont beaucoup répandus. Des calcaires jurassiques moyens, des calcaires du Crétacé. Or, on s'en sert, en tout cas au XIIIe siècle, on s'en sert relativement peu, et on préfère le calcaire parisien. On va voir des évolutions, d'ailleurs, de cet approvisionnement, en fonction de la production des carrières. Au XIIe et XIIIe siècle, on sait que les calcaires souterraines de Paris produisent beaucoup, elles produisent énormément. Et au XIIIe et XIVe siècle, elle continue à produire, mais les chantiers parisiens absorbent une grande partie de la production. Donc pour la cathédrale d'Auxerre, eh bien, il y en a moins de disponibles, ou peut-être est-elle trop chère, tout simplement. Et donc on passe en carrière locale, et on va utiliser la pierre de tonnerre. Et on va voir ça sur les relevés lithologiques, la façade occidentale, portail sud, au XIIIe siècle. Tout ce qui est en beige, que vous voyez là, c'est du calcaire lutétien, et le reste, c'est le calcaire local. Et à partir du XIVe siècle, les proportions s'inversent. L'ensemble des sculptures du portail, linteau et voussure, devient en pierre de tonnerre et le calcaire parisien, lui, est utilisé de manière secondaire. Alors, dernier point sur les questions de pierre avant de passer à deux autres sujets. Évidemment, le choix des pierres dans l'histoire a tenu compte, malgré tout, des propriétés de ces pierres et de leur durabilité en fonction de leur usage, par connaissance relativement empirique. Et on constate aujourd'hui que certaines pierres, certains calcaires en particulier, sont très sensibles à l'action de l'environnement. Je vous montre une belle craie de Normandie complètement érodée, dissoute par les pluies acides. Et donc là, les pierres s'altèrent sous l'effet de l'environnement, et le devoir que le ministère de la Culture en particulier et les services du patrimoine ont, c'est de conserver au maximum le matériau d'origine. Un souci de développement durable, là aussi. Pour préserver l'authenticité du monument, mais aussi pour préserver la ressource. Moins on change de pierre, et plus on préserve la ressource naturelle. Mais quelquefois, il faut vraiment changer. Et quand il faut vraiment changer, eh bien, il faut essayer de retrouver la pierre d'origine ou trouver une pierre qui soit compatible avec la pierre d'origine. Or, la plupart des carrières médiévales sont fermées. Vous savez que les grands carriers français, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de publicité, ont fermé volontairement des carrières parce qu'elles n'étaient pas suffisamment rentables. Donc la problématique, c'est de pouvoir réouvrir des carrières anciennes. Et ceci a été impossible pendant très longtemps à cause de la réglementation sur l'ouverture de carrières extrêmement, contraignante, les normes environnementales extrêmement contraignantes, jusqu'à ce qu'en 2006, il y ait finalement un arrêté qui simplifie les procédures d'ouverture et d'exploitation de carrières, mais uniquement pour les monuments historiques et à condition de respecter un volume de pierres très limité. Mais cette nouvelle réglementation a permis de réouvrir la carrière de Berchard-les-Pierres, près de Chartres. Et là, c'est l'image de la carrière au début du XXe siècle. Et vous voyez la pierre de Berchère à nouveau taillée et la restauration du transept. Vous voyez que c'est un peu plus blanc. Hein, c'est la pierre de Berchère utilisée à nouveau pour la cathédrale de Chartres. Alors ça, c'était c'est la plus grosse partie d'ailleurs de mon exposé. Rassurez-vous, j'ai presque fini. C'est la partie portant sur la question de la proximité et de l'achat à longue distance dans l'histoire de l'approvisionnement en matériaux. Et puis il y a d'autres cas où l'approvisionnement s'est fait à beaucoup plus petite distance, on a utilisé des ressources locales, et c'est le cas pour les verres et pour les verres des vitraux au XIIe et XIIIe siècle et plus tard encore. Donc ici je vous ai montré l'arc de Jessé de Saint-Denis, qui est une œuvre tout à fait remarquable du XIIe siècle. On parle beaucoup, pour le XIIe siècle, d'un verre bleu dit « bleu de Chartres ». Eh bien, ce bleu de Chartres, c'est à la fois un mythe et une réalité. La couleur bleue devient, à partir du XIIe siècle, la couleur dominante et privilégiée dans l'iconographie et la société. L'abbé Sugère, à Saint-Denis, parle de travail merveilleux et d'une grande richesse de verre peint et de la matière de saphir. Le verre bleu, le saphir, c'est le verre bleu, c'est le verre de cobalt, verre à base de cobalt. Et on constate par les analyses que la plupart des verres bleus des vitraux du XIIe siècle ensemble présentent en effet des caractéristiques très particulières et des compositions analogues sur quelques sites importants comme Chartres, Le Mans, les cathédrales de Chartres, Le Mans, Poitiers ou Saint-Denis. Je vous montre rapidement la localisation, on va passer rapidement. Alors simplement, pour un petit rappel sur la composition des verres, un vitrifiant bien sûr à base de silice, un fondant. Ce fondant peut être soit sodique, verre antique ou verre moderne, et puis au Moyen-Âge, un verre potassique qui, lui, se fait à partir de cendres de végétaux terrestres. Et là, c'est une économie locale de ressources de proximité qui utilise les forêts, et donc les verriers s'installent dans les forêts, utilisent les bois des forêts, les fougères, pour fabriquer un verre avec une ressource immédiate, locale. Alors quand on parle de la ressource en bois, il y a aussi la ressource en argile pour construire le four, la ressource en sable et puis la ressource en calcaire pour pouvoir stabiliser l'ensemble du verre et le rendre durable. Alors juste une image d'un four de verrier au XVe siècle où on voit cette économie locale, on prend de l'argile en haut, il y a le bois pour le bois local pour faire chauffer le four, éventuellement pour utiliser une partie de la cendre comme fondant, et puis le four lui-même en bas. Alors, un point sur ces verres du XIIe siècle, qui ont cette grande particularité. À Chartres, je vous montre ici Notre-Dame de la Belle Verrière, qui est un ensemble de vitres, une verrière qui date du XIIe siècle, mais qui a été sauvée de l'incendie de 1180 et réintégrée dans une baie du XIIIe siècle. Donc, cette baie comporte à la fois des verres du XIIIe siècle, des panneaux du XIIIe siècle, des panneaux du XIIe siècle. Donc, ils ont été analysés. Un panneau qui était connu pour être du XIIe siècle, le panneau 14, et la composition, très simplement résumée, le verre bleu n'est pas un verre potassique, utilisant les fameuses cendres de fougère et de hêtre, etc., mais c'est un bleu qui a la particularité d'être un bleu sodique, coloré au cobalt, mais aussi au cuivre, avec une assez forte proportion de cuivre, qui lui donne cette couleur légèrement turquoise. Toutes les autres couleurs, donc seul le bleu a cette composition-là, toutes les autres couleurs sont potassiques. Si on analyse le panneau du XIIIe siècle, le résultat est assez différent. Toutes les couleurs sont potassiques Et c'est ce qui deviendra la règle à partir du milieu du XIIe siècle jusqu'à l'époque moderne. Les vers seront de nature potassique avec cette utilisation de ressources locales. Alors, conclusion, origine des matières premières au XIIe siècle, c'est une étrangeté, cette cohabitation de deux fournitures différentes. L'usage de matières premières locales, sable, cendre végétale, chaux pour l'ensemble des vers colorés, sauf les bleus. Mais alors, d'où viennent ces bleus? Importation de vers bleus, importation de soude, ou recyclage de vers creux bleus, comme le dit le moine Théophile, qui dit que les Français réutilisent des vases antiques, il dit des vases des païens, pour les recycler, et ils sont experts en la matière et produisent de très belles feuilles de vers bleus. Il dit que, que les Français sont experts dans la matière. Donc voilà le cycle de ces vers. Donc à partir de 800, on n'a pratiquement plus que des vers potassiques, sauf ces vers bleus sodiques. Et enfin, pour cette économie de la proximité, un dernier exemple, une ressource locale qui va transformer le paysage construit. Donc on quitte le Moyen-Âge et on arrive au XIXe siècle, les ciments naturels au XIXe siècle. Alors c'est une ressource, ces ciments naturels, c'est une ressource qu'on commence à exploiter grâce aux découvertes de John Smeaton en 1756, qui découvre que les meilleurs chaux contiennent de 5 à 20% d'argile. En 1802, on utilise les galets de la plage de Boulogne, qui sont des pierres argileuses là aussi, pour faire un plâtre ciment à prise rapide, qui est le premier du genre que l'on a mis en œuvre. En 1818, Louis Vica publie ses travaux sur la fabrication des chaux hydrauliques. En 1827, on commence à fabriquer des ciments naturels à Pouilly, en Bourgogne, en Saône-et-Loire, par Alexandre Lacordaire. Et en 1842, apparaissent les premiers ciments prompts de la Porte de France, près de Grenoble, qui sont aussi des ciments naturels. Et un exemple intéressant de construction, en 1855, la construction de la Casa Mor, utilisant le ciment prompt, près de Grenoble. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ciments naturels, que quelquefois dans l'histoire, on a appelé ciments romains? Eh bien, ce sont des ciments qui sont issus de l'extraction d'une seule pierre de carrière, un calcaire argileux contenant de 22 à 24% d'argile, cuit à faible température dans des fours verticaux pour obtenir du clinker. Et voici des schémas de ces fours verticaux. C'est toujours comme ça que ça se produit aujourd'hui, il est toujours produit de cette manière-là. Il a une couleur qui varie du beige à l'ocre rouge. Et il porte différents noms et il a différentes rapidités de prise, très rapide, prompt, demi-prompt, demi-lent, lent, en fonction de sa composition. Et c'est surtout un matériau qui est très facile à mouler, qui est très durable et qui a un aspect sympathique. Alors voilà les ressources, la localisation des principales ressources qui sont dans la région de Grenoble, mais on en trouve aussi donc en Bourgogne, comme on l'a dit, et puis un peu dans la région de Marseille également. Alors les usages, qu'est-ce qu'on en fait de ce matériau? Eh bien on va en faire des pierres factices. Donc on a vu la fourniture de pierres naturelles, et maintenant on verra au XIXe siècle fabriquer des pierres factices pour faire de l'ornementation de façade, dans cette villa qui s'appelle la Casa Mor, néo-mauresque, dont toute la façade n'est pas en pierre, mais en ciment naturel, ou à l'église Saint-Bruno de Grenoble, où toutes ces fausses pierres de parement sont faites, elles aussi, en ciment naturel, usage local, carrière locale, économique, si je puis dire, ressources de peu de prix. Et enfin, toujours dans cette idée de l'économie de moyens, nous sommes à Marseille, les bâtiments de la consigne sanitaire en 1858, au Vieux-Port. Le bâtiment de gauche est un bâtiment du XVIIIe siècle, en pierre. Le bâtiment de droite est le même bâtiment, c'est une copie en ciment naturel. Et voilà une baie avec son petit mascaron en pierre, la même baie avec son petit mascaron en ciment naturel. Donc tout ça, c'est du faux. Et ce matériau assez merveilleux, qui a permis quand même une économie, qui a permis de faire de la construction en série et de qualité esthétique certaine, il a même servi à faire de la restauration de monuments, puisque pour restaurer de la sculpture, comme c'est un matériau très plastique et facile à mettre en œuvre et qui prend vite, on a fait des compléments de sculpture ici à la cathédrale d'Angers ou à la cathédrale de Troyes. Voilà, j'en arrive à ma conclusion, je suis un petit peu en retard. Donc l'étude archéométrique des matériaux du patrimoine permet de mettre en évidence des provenances, j'ai essayé de le montrer, des routes commerciales, parfois insoupçonnées, des approvisionnements variés, suivant les époques, en fonction de deux logiques différentes. Mais ces deux logiques, elles peuvent coexister. Le choix de la qualité, on prend le matériau précieux, le plus beau, le plus fin, le plus coloré, en dépit de distances importantes à parcourir et d'un coût élevé. Mais ça, c'est souvent parce qu'on a un commanditaire qui a les moyens. Ou alors, c'est le choix de la proximité, permettant de meilleures conditions économiques. Ça peut être lié à des conditions économiques globales. On est dans une période où on a peu d'argent disponible, ou aussi pour faire de la production en série et pour des usages plus modestes. Donc voilà, les leçons du patrimoine sont très larges, comme vous le voyez. Faites votre choix entre toutes ces, dans cette dualité. Merci.